Seigneur est bon, des moments qu'il nous fait passer dans la louange et des moments qu'il nous fait passer chaque jour. Amen. Chaque jour dans lesquels nous pouvons vivre quelque chose, même si des fois, bon, ben, on se dit, mais Seigneur, où est-ce que tu te trouves? Comment est-ce que tu agis? Alors peut-être, moi je vais prendre un passage que je voudrais qu'on lise ensemble ce matin. Alors je vais lire dans la Bible Semeur, si ça ne vous gêne pas trop, de toute manière c'est la seule que j'ai là. c'est un passage assez long. Ces derniers temps, je redécouvre la joie de lire la Bible à haute voix. Enfin, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Et je pense que c'est important qu'on puisse... Vous savez, des fois, on est tellement pris par le temps qu'on lit un verset, on lit un autre, on prend à droite, à gauche. Mais c'est important de se poser dans les histoires de la parole de Dieu, dans ce que la parole de Dieu nous raconte. Et si on est là, ensemble, c'est pour partager la parole de Dieu. C'est pas juste pour partager ce que quelqu'un va dire. Amen. C'est pour qu'on puisse s'appuyer sur ce que la Bible dit. Et peut-être pour les annonces tout à l'heure, Christophe nous avait parlé de ça. Je sais pas si ça vous en souvenez, un de ces jours. Alors je suis allé faire un tour. Ça s'appelle Sola Scriptura et c'est un comédien qui fait ça, bien sûr bénévolement. Il fait ça les lundis soirs à l'Alliance Biblique Française. Et je suis allé faire un tour parce que lire la Bible à haute voix, c'est quelque chose que vraiment j'aime bien. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir quand même qu'est-ce que ça donne. Donc c'est un comédien et franchement, des fois on lit la Bible dans notre coin, on est là, on y met nos intonations ou autre chose, mais quand on... Voilà, c'est aussi une manière d'être à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Il n'y a rien de particulier, il est juste là, en train avec sa Bible ouverte ou son iPad. Et il lit en mettant vraiment les bonnes intonations. Des fois, c'est saisissant ça nous parle de manière différente. Donc bon, si vous avez le temps, bon, c'est le lundi soir. Si jamais le cœur vous en dit ou que vous pouvez, parce que moi je sais que je peux pas tout le temps, mais c'est très intéressant. Je sais pas, j'aimerais bien peut-être mettre ça en place dans l'église. Mais bon. Donc je veux prendre un passage aujourd'hui qu'on connaît bien dans le livre de Jean, au chapitre 11. Et avant de lire, on va prier. On va remettre ces moments entre les mains de Dieu. Donc Jean chapitre 11, et je vais lire, attention, je vais lire 44 versets. Ça va aller ?
Oui.
Oh Seigneur, nous te remettons ces moments, nous plaçons ces temps devant toi parce que nous voulons partager ta parole ensemble et nous réjouir de ce que tu as à nous dire. Et bien sûr, entendre, Seigneur, la pensée de l'Esprit, entendre, Seigneur, la réflexion dans laquelle tu veux nous amener, Seigneur, pour comprendre ce que tu veux nous dire. Parce que tu as des paroles, Seigneur, qui sont prêtes pour que nous puissions, Seigneur, aussi avancer dans nos vies, pour que nous puissions être fortifiés dans notre foi, encouragés, Seigneur, sur les chemins, Seigneur, dans lesquels nous marchons, Seigneur. Et nous savons que nous ne marchons pas seuls, parce que tu te tiens à nos côtés, parce que tu es là, Seigneur, parce que tu avances, Seigneur, au-devant de nous. Et c'est toi qui nous portes et nous soutiens. Et nous te remercions, Seigneur, de ces temps dans lesquels nous pouvons prendre, Seigneur, pour partager cette parole ensemble. Il y a tellement d'endroits où ce n'est pas possible, où c'est possible difficilement, en cachette, que nous sommes là, Seigneur, presque à ciel ouvert, comme pour ainsi dire, et nous pouvons le faire sans être troublés, sans être dérangés. Nous te remercions, Seigneur, de cela. Te bénissons parce qu'en tout temps, nous voulons, Seigneur, tourner nos regards vers toi, et particulièrement dans ces moments-là, Seigneur. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Voilà, je vais prendre donc le livre de Jean, chapitre 11. Et donc, on connaît déjà l'histoire, c'est la mort de Lazare. Et la résurrection. La mort de Lazare et la résurrection. J'ai oublié ça. Mais c'était la surprise à la fin. On ne sait jamais s'il y en a qui ne savaient pas. Jean chapitre 11, verset 1. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Maintenant, tu veux retourner là-bas ? » « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? » répondit Jésus. « Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. » Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas en ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. »« Ah, oh, je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie, au dernier jour, lors de la résurrection des morts. »« Je suis la résurrection et je suis la vie, lui dit Jésus. »« Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. »« Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. »« Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Celui qui devait venir dans le monde. Et là-dessus, elle partit, appelait sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Et Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. Il n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Mais Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» En ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent. Pour tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Amen. Amen. C'est une longue lecture. C'est bien de lire la Bible. Histoire que vraiment on se mette dans ce contexte, que cette histoire ne soit pas juste un petit verset à droite à gauche. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, ça défie la raison. Jésus ramène à la vie Lazare. Il ramène à la vie son ami. Et pourtant, le cheminement qui a conduit jusqu'à cette résurrection, s'est heurté à plusieurs obstacles. S'est heurté à plusieurs personnes, s'est heurté à plusieurs visions de ce que Jésus pouvait faire, de ce qu'il pouvait accomplir, de ce qu'il était en mesure de faire, et de ce qu'il disait et de ce que les autres pensaient. Marthe et Marie envoient quelqu'un vers Jésus. Elles envoient quelqu'un pas pour lui dire « Seigneur, Lazare est mort ». Ce n'est pas une fois que Lazare est mort qu'elles envoient quelqu'un pour parler à Jésus, c'est alors qu'il était encore vivant. Alors qu'il était encore vivant, elles décident d'envoyer quelqu'un vers Jésus pour lui dire « Seigneur, Lazare est malade ». Et j'imagine l'attente de Marthe et de Marie dans cette occasion, dans ce moment où elles envoient un serviteur et qu'elles voient ce serviteur revenir parce que Jésus a décidé de rester un peu plus longtemps. Elles envoient ce serviteur pour dire à Jésus qu'il est malade, tout simplement, bien sûr, on l'a compris, parce qu'elles souhaitent qu'il le guérisse, parce qu'elles souhaitent qu'il vienne, qu'il impose ses mains sur Lazare, parce qu'il est déjà, tard dans sa maladie. Et leur seul espoir, c'est que Jésus vienne et qu'il guérisse Lazare. Et Jésus décide de rester. Il attend. Et entre-temps, Lazare meurt. Et c'est important de voir le déroulement de la situation parce que c'est vraiment, elles ont envoyé leur serviteur et on imagine combien l'espoir que Marthe et Marie avaient mis en ce serviteur pour que ce serviteur revienne avec Jésus pouvait être grand. Et bon, ça ne nous est pas dit si le serviteur revenait et repartait ensuite, mais j'imagine cela comme ça en tout cas. Les Jésus ne vient pas. Lazare est sur le point de mourir et Jésus ne vient pas. Et Jésus n'est pas là. Elles sont impuissantes devant leur frère qui est malade, qui est en train de mourir. Leur seul espoir qu'elles ont, c'est Jésus. Et Jésus ne vient pas. Il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu lorsqu'il a été prévenu? Elles avaient des raisons d'être un peu en colère contre Jésus, parce qu'il a été prévenu à temps. Mais ce que Jésus regarde, ce n'est pas ce que Marthe et Marie regardent. Et Jésus dit, quand il a appris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Et pourtant, Lazare est mort. Mais il a dit « Elle servira à glorifier Dieu ». Et il nous est dit que Jésus était très attaché à Marthe et Marie. Et j'imagine facilement que pour Jésus, ça ne devait pas être facile d'attendre. Ça ne devait pas être facile d'attendre et de savoir que Marthe et Marie étaient dans une situation extrême, dans une situation de détresse. Mais Jésus ne travaillait pas pour ce que les hommes veulent faire, il travaillait pour ce que Dieu veut faire. Il œuvrait pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ce monde, et qu'elle soit manifeste au plus grand nombre. Lorsque Lazare est mort, une grande foule est venue. Et le témoignage que Dieu a apporté à ce moment-là de sa puissance et de sa gloire a été plus grand que si Jésus avait simplement guéri Lazare. Dans un coin, dans un endroit, quelque part. Ce témoignage-là de Dieu avait été bien plus puissant, bien plus grand que ce qui se serait passé si simplement il était venu pour le guérir. Mais les yeux de Marthe, les yeux de Marie ne voyaient pas cela. Dans leur détresse, dans leur besoin de voir leur frère guéri, c'est l'extrême de notre vie, l'extrémité de notre vie, c'est quoi? C'est la mort. Pour la plupart des gens, Pour beaucoup de gens se disent qu'après la mort, il n'y a rien. Beaucoup de gens n'envisagent pas leur vie au-delà de la mort. Ils disent, mais on n'est que poussière, voilà, on est que des cellules montées les unes contre les autres, et un jour, tout ça va partir, et puis c'est fini, il n'y a plus rien. Et pourtant, quand la mort se présente devant nous, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, 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 rien. Et si ce n'est pas sur Jésus que nous plaçons notre confiance, tout s'écroule. Si Jésus n'est pas ce roc sur lequel on peut marcher, cet appui sûr et solide, le sol s'effondre devant nous. Cette semaine, j'ai été témoin de quelque chose d'assez difficile. J'étais dans une salle, dans une pièce, et à côté de moi, j'ai entendu quelqu'un qui discutait au téléphone. On entend bien en travers des pièces, et j'entendais cette personne qui parlait, bon, normalement. Et d'un coup, je l'ai entendu, elle se mit à pleurer, à crier, à gémir. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'hésitais à aller rentrer dans la salle, et Dieu m'a mis sur mon cœur, rentre. Et je suis rentré. Et je suis allé la voir. J'ai trouvé une personne qui était effondrée. Effondrée parce qu'elle venait d'avoir un coup de téléphone de son médecin. Elle passait des examens. Et a priori, le médecin était... Il disait, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Et il lui a dit ça quelques heures auparavant, parce qu'il n'avait pas reçu les résultats. Entre-temps, il a reçu le résultat, il l'a appelé, il lui a dit « Il faut absolument que vous veniez de toute urgence. De toute urgence, maintenant, vous quittez tout, vous venez maintenant. » Alors, c'est pas rassurant déjà, avant qu'un médecin dise ça. Alors, elle a dit « Mais expliquez-moi, dites-moi. » Il dit « Je peux pas vous dire ça au téléphone. Je peux pas vous dire ça au téléphone, mais venez de suite. » Elle a dit « Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai un cancer. » Et le médecin voulait pas lui dire. Et a priori, c'est quelque chose de ce genre-là. Mais bon, j'en sais pas plus parce que la suite, c'était. Je l'ai pas su. Mais j'ai trouvé une personne que ça m'a brisé le cœur, qui était effondrée. Alors, bien sûr, elle imaginait beaucoup de choses. Bien sûr, elle pensait à beaucoup de choses. Mais dans ce moment-là, sa vie peut partir dans tous les sens. Elle disait : Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, je suis trop jeune pour mourir. Mon Dieu, c'est pas ce moment. Mon Dieu, j'ai un fils. Mon Dieu, elle disait ça. Sa vie pouvait être dans tous les sens, même par rapport à Dieu. Dans ce moment-là, la chose qu'elle disait, c'était mon Dieu. Elle n'avait pas tous les éléments en main, mais tout lui indiquait qu'il y avait une détresse énorme dans laquelle il fallait absolument, il y avait quelque chose d'urgent. Et moi, tout ce que je pouvais faire, c'était être à côté, et je mettais bien sûr ma main sur elle, et je priais. Et c'est la première fois de ma vie, personnellement, que j'ai vécu quelque chose comme ça. Être témoin de quelqu'un qui apprend une nouvelle comme ça et qui est effondré à tel point qu'il se dit, mais c'est fini, ma vie est finie. Et dans ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui reste? Sur quoi sa vie est fondée? Tout ce qu'elle pouvait avoir, tout ce qu'elle peut avoir, ça compte pas. Il n'y a rien qui compte. À ce moment-là, la seule question qu'elle pose, c'est « Mon Dieu, mon Dieu ». Et peut-être elle a beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout ça? Pourquoi est-ce que je vis tout ça? Et peut-être Dieu a des réponses par rapport à tout ça. Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, la seule chose, le seul socle, le seul soutien qu'elle cherchait, c'était un soutien de la part de Dieu. Peut-être parce qu'un jour elle avait été au catéchisme, peut-être pour diverses raisons. Je ne connais pas son histoire. J'étais surpris de l'avoir invoqué Dieu à ce moment-là. Et on peut apprendre des nouvelles comme ça, et nous-mêmes on peut être mis devant des nouvelles, des situations comme ça. Et je me suis dit, mais finalement, si moi-même j'apprenais une nouvelle comme ça, si moi-même j'étais là, quelle serait ma réaction? Quelle serait ma réaction? Alors j'espère qu'elle serait plus forte. Mais il est normal aussi de s'inquiéter. Il est normal de se poser des questions, il est normal de regarder, de dire mais c'est pas, je sais plus quoi penser, je sais plus quoi croire, je sais plus quoi comment c'est normal. Bien sûr, il y a l'affolement, il y a des choses comme ça. Mais Dieu, s'il est notre soutien, s'il est notre force, s'il est celui qui conduit nos vies, notre regard sera porté par lui. Notre regard et notre vision sur toutes ces choses-là sera portée par lui. Parce que nous pouvons avoir cette vision de l'éternité. Parce que nous avons une vision. Mais dans ces moments-là, ma réflexion, je me suis dit, c'est dans un moment comme ça que d'un coup, on se dit, mais est-ce que je crois vraiment en Jésus? Je parle ouvertement. Est-ce que on croit vraiment en Jésus dans le sens où c'est lui en qui nous mettons notre confiance? Quels que soient les événements de notre vie, quelle que soit la situation, même si demain on va dans la rue et que des gens nous matraquent, même si on vit le pire, est-ce qu'on sera là à dire « Mais Seigneur, pourquoi ?» ou est-ce qu'on sera là à dire « Seigneur, en toi j'ai mis ma confiance, tu es mon assurance, tu es ma force ?» Et je pense souvent à ce passage, je vous le cite souvent, ce passage où les disciples étaient dans le trouble, dans la difficulté. Et la chose qu'ils ont demandé à Jésus, la chose qu'ils ont demandé à Dieu, c'est « Donne-nous de l'assurance pour témoigner. » Et cette assurance, c'est pas juste la certitude de ce qui va m'arriver demain. C'est la certitude que tu passes au-devant de moi. C'est la certitude que je suis dans ta volonté. C'est la certitude que ce que je fais aujourd'hui est ancré dans ce que tu veux faire. Trouve un écho dans ta volonté, trouve un écho dans ce que tu veux faire. Et lorsque Jésus parle de cela, lorsque Jésus parle de Lazare, donc lui, il est resté là, il a attendu. Il a attendu 2 jours, la Bible nous dit. Il a attendu 2 jours, 2 jours pendant lesquels rien ne s'est passé auprès de Lazare. 2 jours pendant lesquels Lazare est passé au-delà. Il est passé au-delà du ruisseau de la vie. Et Jésus de dire, cette maladie n'abrutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Alors lorsque Jésus parle et dit d'un coup, ok, maintenant on y va. Il fait face à quoi? Successivement, avec tous les intervenants, tous les interlocuteurs qu'il rencontre, Jésus fait face à l'incompréhension de chacun d'entre eux. Alors lorsque c'est les disciples, c'est ils comprennent rien quoi. Il dit, retournons en Judée, et les disciples, mais attends, ils veulent tous te tuer là-bas, et tu, la dernière fois on était allé là-bas, ils veulent tous te tuer, tu veux retourner? Non, 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 mais on doit y aller. On doit y aller, là c'est le moment. Avant c'était pas le moment, maintenant c'est le moment. Et après ça, ils disent, c'est Thomas qui pense, il dit, écoute, allons mourir avec lui. Mais quelle foi quand même! Mais sérieux, quelle foi! Il ne s'est pas contenté de dire « Oh, vers où on va ?» Non, il a dit « Allons-y, on va mourir avec lui, on va y aller. » Quand même, il a fait preuve de foi, mais il n'était pas du tout dans la vision de Dieu. C'était pas pareil. Lui, il pensait qu'ils allaient mourir, et Dieu avait d'autres regards. Lorsque Jésus parle de Lazare, qu'il est endormi, s'il est endormi, c'est bon, il va se réveiller, quoi. Il n'y a pas de problème à ça. Ah, jusqu'à quand serai-je parmi vous? J'ai l'impression d'entendre. Lazare est mort. Parce que pour Dieu, la mort n'est pas un obstacle. Pour Dieu, la mort n'est pas un obstacle. La mort n'est pas un obstacle pour Dieu. Dans cette situation, ce que Jésus rencontre comme obstacle, c'est l'incompréhension de ceux qui l'entourent. La mort, pour lui, ce n'est pas un problème. Par contre, la manière dont pensent les autres autour de lui, là, par contre, c'est un problème. Parce qu'il est obligé de toujours reprendre, de toujours corriger, de toujours ramener sur la vision de Dieu. Et lorsque Jésus arrive là-bas, la première à venir, bien sûr, c'est Marthe, qui court vers Jésus. Et la chose qu'elle lui dit, c'est « Pourquoi tu n'étais pas là ? Si tu avais été là, mais il ne serait pas mort, tu aurais pu le guérir !» C'était ça l'objectif de Marthe. Mais qui donne les ordres ? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes en mesure de dire à Dieu « Fais ça !» Tu dois venir et tu dois le guérir. Tu dois faire une chose, tu dois faire une autre. Et Jésus sait très bien que ce moment est un moment qui est destiné à la gloire de Dieu. Et il lui dit, mais est-ce que tu crois ? Lorsqu'elle lui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourtant, elle fait preuve de foi. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et c'est assez troublant comme dans chacun des témoignages, il y a comme, ok, ça, d'accord, c'est pas terrible, mais quand même, je sais que tout est possible. Je sais que tu peux toutes choses. Ou Seigneur, si tu peux, ah oui, ça me rappelle quelque chose, Seigneur, si tu peux. Ça me rappelle quelque chose, j'avais un ami qui priait, on priait souvent ensemble, et je me permets jamais en général de parler des prières des gens ou autre chose parce que bon, c'est voilà, on n'a pas forcément, c'est pas hein, bon. Et non, c'est un peu délicat, moi aussi, on peut tous être. Mais quand même, j'avais cet ami qui priait toujours quand il priait, il disait Seigneur, si tu peux, Seigneur, si tu peux, Seigneur, puisses-tu faire ceci, puisses-tu faire cela, puisses-tu faire. Mais toujours c'était comme ça. Alors, au bout d'un moment, je lui dis mais tu crois que Dieu il peut pas ? Tu crois ? Et c'est le passage aussi quand Jésus il parle à cet homme qui vient le voir, qui se met à ses pieds, qui dit Seigneur, viens guérir mon fils, il a des démons, c'est la cata quoi. Il a plein de choses. Viens de suite. Si tu peux. Et c'est Jésus lui-même qui parle, hein. C'est pas l'apôtre Paul ou quoi, c'est Jésus lui-même lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Rien n'est impossible à Dieu. Si tu peux, alors vous ne sentez pas visé si vous... vous sentez pas visé si des fois ça vous arrive, puisses-tu ou autre chose, c'est pas ça, hein. C'est pas ça le but, mais... Nos paroles même donnent aussi un indice sur la vision qu'on a de Dieu. Et ce n'est pas une catastrophe, mais Dieu nous affine pour que nous puissions rentrer dans sa vision et que nous puissions lui faire confiance en toutes choses. Et comprendre que nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout, mais Dieu, lui, peut tout. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas se remettre en question. Lui peut toutes choses. Rien ne lui est impossible. Et donc Marthe vient voir Jésus, donc elle fait preuve de foi quand même, hein, elle sait que tout ce que Jésus demandera, il l'accordera. Et donc Jésus va un peu plus loin, il dit « Oui, oui, ton frère reviendra à la vie. » « Oh, je sais bien, oui, oui, il reviendra à la vie après la mort. » Il ira à la résurrection des morts, pardon. « Je sais bien, » et Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus lui parle, il lui donne des indices. Alors, je ne dis pas que si moi j'avais été là-bas, j'aurais été meilleur que Marthe, hein, franchement. C'est quand même pas facile, hein. Quand, entre le moment où il dit « il dort » et le moment où il dit « ok », faut avouer quand même. C'est pas tout simple. Mais on voit ça avec du recul, avec notre Bible qu'on lit. Amen. « Je suis la résurrection et la vie ». Et il veut conduire Marthe sur un terrain, il veut la pousser un petit peu plus loin. Il lui parle de lui. Il lui parle de ce regard qu'elle peut avoir sur lui, de la manière dont elle le regarde, de la manière dont elle le voit. Parce que Marie est là, Marthe est là devant lui, et elle le voit, elle le considère comme, voilà, le Messie. Elle dit que c'est le Christ, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il est là juste parce qu'il peut guérir des malades ? Ou est-ce qu'il peut faire plus? Et Jésus la conduit et la dirige pour aller plus loin dans la connaissance de qui il est. Et il lui dit, celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et là, Marthe répond un truc, bon, je sais pas très bien comment, dans quel... Elle dit, oui Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Ça fait un peu comme une proclamation, qu'on dit quand on sait pas quoi dire. Mais c'est une proclamation quand même. Amen. Mais Jésus lui donne un indice sur sa personne, sur ce qu'il est capable de faire. Celui qui place sa confiance en moi, celui qui croit en moi. Et croire là, c'est pas juste oui, je crois. C'est pas quelque chose de. C'est celui qui place sa confiance en moi. Si je place ma confiance en quelqu'un, je sais. Qu'il agira pour mon bien. Je sais que tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux expérimenter comme situation, quand bien même elle serait la plus extrême, je place ma confiance en Jésus. Je place ma confiance en lui. Incompréhension de Marie encore, qui... Ben de la même manière, elle lui reproche, elle lui dit, mais où est-ce que tu étais? Et là, Jésus, Marie, cette personne qui touche vraiment Jésus de manière particulière, parce que Jésus pleura. Et il y a aussi l'incompréhension de la foule qui est autour. Et les gens regardent. Et les gens voient. Et ils ont une vraie réflexion. Puisqu'ils disent, mais quand même, celui-là qui a guéri les aveugles, est-ce qu'il n'aurait pas pu non plus... Guérir Lazare. Et dans tout ce climat-là, tous les gens qui étaient autour de Jésus étaient dans l'incompréhension de qui était Jésus et de ce qu'il pouvait faire. Ils ne voyaient pas que Jésus pouvait faire bien plus que ce que leurs yeux voyaient, bien plus que ce que leur entendement voyait, bien plus que ce qu'ils avaient entendu possible de ce qu'un homme extraordinaire pouvait faire. Bien plus que tout ça, ils n'avaient même pas imaginé que Jésus puisse être vainqueur sur la mort. Ils n'avaient même pas envisagé ça, parce que la mort est ce qui est le chemin extrême et l'extrémité du chemin qui pour chacun d'entre nous, pour l'homme naturel, ne va pas plus au-delà. Au-delà de ce chemin-là, tout s'arrête. Au-delà de ce chemin, au-delà de la mort, il n'y a plus rien pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes. Et les gens qui étaient là, ils disaient, oui, un jour, peut-être, il va ressusciter d'entre les morts. Mais là, pour maintenant, ce n'est pas pour maintenant. Or, Jésus est celui qui est maintenant, celui qui était, qui est et qui vient. Et il est celui de l'action du maintenant. Maintenant de Dieu, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu pouvait se manifester. Ce n'était pas plus tard, ce n'était pas dans des milliers d'années que lorsque la résurrection des morts pourrait venir. Tout ça. C'était le maintenant. Jésus était là, présent au milieu d'eux, et c'était maintenant qu'il était là. Ce n'était pas plus tard. C'était là qu'il se trouvait. Et toutes ces incompréhensions... Tous ces gens qui sont là se trouvent devant ce tombeau. Suivent Jésus, Jésus suit tout le monde, et ils se rendent tous au tombeau en même temps. Il y a la foule, il y a Marthe, il y a Marie. Et là, Jésus dit une chose simple. Ôtez la pierre. Parce que les tombeaux, c'était... Donc, bon, vous savez peut-être, mais les tombeaux, c'était des grottes souvent, qui était bouché par des pierres rondes et plates. Et il fallait pouvoir... Alors, c'était pas une seule personne qui pouvait faire ça. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Et là encore, mais ôtez la pierre. Mais il est mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Seigneur, il est là depuis 4 jours. Il sent déjà. Il n'y a plus rien à faire. Mais qui parle? Qui parle? Est-ce ce que Dieu dit? Est-ce ce que le Messie qui est présent dit? Ou est-ce ce que les pensées, l'impossible de l'homme qui est là, est-ce que c'est cet impossible-là qui parle? Et cet impossible-là est concentré sur cette pierre. Cette pierre est là, et de l'autre côté se trouve le miracle. De l'autre côté se trouve le miracle. Il y a une pierre à ôter. De la même manière que Pierre, Jacques et Jean étaient sur un bateau, et Jésus leur dit « jetez le filet », la seule chose qu'ils ont à faire, c'est jeter le filet. Il n'y avait pas d'autre chose. Et Jésus leur dit, ôtez cette pierre. Jetez le filet. Un simple petit geste. Une simple petite action pour voir le miracle de Dieu. Mais cette simple petite action, cette petite action-là, en dit beaucoup parce que combien de fois dans notre vie, des fois, on est défié, que ce soit pour parler à quelqu'un ou pour simplement être voilà, quelque chose que Dieu nous demande, et on se dit, mais je suis coincé là. Est-ce que vraiment je vais le faire? On va me regarder. C'est peut-être une petite action. Et c'est peut-être une petite chose des fois qui bloque nos vies. Et chacun d'entre nous, on peut regarder nos vies et réfléchir à ça. Des fois, c'est des petites actions, des petites choses qui peuvent bloquer nos vies parce que Dieu nous a parlé. Et il peut parler, mais il nous dit « ôte la pierre ». Ôte la pierre. Mais quand même, Seigneur, tu vois pas tout ça? Tu vois pas ça? Tu vois pas tout ça? On peut avoir plein d'excuses pour dire à Dieu que ce n'est pas possible. On peut avoir plein d'excuses pour dire à Dieu, tu te trompes. On peut avoir tout un tas de choses qui trottent dans nos têtes, alors que Dieu nous dit, ôte cette pierre, mais ôte-la donc. Ôte-la donc, parce que nos incertitudes, parce que nos doutes, et là où Dieu nous a demandé de placer notre confiance en lui, de croire en lui, et non pas en nos pensées, non pas en notre imaginaire, non pas en notre science, non pas en notre sagesse, mais en Dieu seul. Et on l'a chanté tout à l'heure, en lui, mon assurance, Christ seul me suffit. Et lorsqu'on parle d'assurance, on parle de quelque chose, quand on a nos assurances pour la maison, on paye, des fois, tous les mois, hein. Alors c'est payant, hein. Là c'est gratuit, la foi. On paye tous les mois pour qu'au moment difficile, ils soient là. Et on a confiance qu'ils vont être là, quand même. Des fois, on a plus confiance en ça que... Parce que Dieu veut que on place notre confiance en lui. Et placer notre confiance en Dieu, placer notre confiance en Jésus, ce n'est pas avoir la certitude de ce qui va arriver. Ce n'est pas savoir avec certitude ce qui va se passer par la suite. C'est se reposer en Dieu. C'est savoir se laisser porter par Dieu. Savoir le laisser parler et mettre notre confiance dans ce qu'il dit. Ta parole est la vérité. Il est la vérité. Placer notre confiance en Dieu. La confiance, c'est quelque chose, je crois que c'est très difficile pour beaucoup. Si on parle de placer notre confiance les uns dans les autres, c'est quand même, au-delà du seul mot, ça a une profondeur bien plus grande. Parce que cela suppose réellement que je me repose en Jésus et je me trouve dans sa paix. Quel que soit ce qui va se passer, Seigneur, tu es aux commandes de ma vie. Et ce n'est pas pour rien que Dieu souhaite être aux commandes de notre vie et que nous puissions lui donner notre vie parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui prend les devants. C'est lui qui nous soutient. Et c'est lui qu'on sent, ses bras d'amour qui nous portent. Ces bras d'amour qui nous portent, même si des fois, nous ne le voyons pas forcément. Même si des fois, nous ne comprenons pas forcément. Même si des fois, on pourrait être amené à se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que, comment, c'est pas possible d'être dans des situations pareilles. Je croule sous les problèmes. Je croule dans la difficulté. Peu importe ce qu'il y a. Le diable ne peut pas nous dérober notre vie. L'ennemi ne peut pas nous dérober. La seule chose qui, à la fin de notre vie, nous restera, ce sera ce souffle que Dieu nous a donné. Ce sera ce souffle, ce sera cette vie. Mais c'est Christ seul qui nous a promis de la propulser vers l'éternité. De la propulser au-delà de ce gouffre qui fait peur aux gens. Au-delà de ce gouffre qui fait peur à toute personne. Toute personne, même forte, même vaillante. Même la plus costaud des personnes pourrait devenir un petit enfant devant l'annonce de sa propre mort. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand il dit ça dans le livre aux Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'est pas dit que personne ne sera contre nous dans le sens où il ne nous arrivera rien. Il est dit que si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, si Dieu est présent dans ma vie, tout ce qu'il y a autour, quelle importance? Quelle importance si demain ma vie s'en va? Quelle importance? Alors bien sûr, pour ceux qui restent, ça peut être dur. On est d'accord? Mais si Christ est mon soutien, est mon rocher, si Christ est mon rocher, je peux marcher avec assurance. Comment vous avez l'assurance que lorsque vous marchez, vous n'allez pas tomber? Est-ce qu'on se pose la question toutes les 5 minutes? Est-ce qu'on se pose la question toutes les 5 minutes? Alors peut-être là c'est du bois, je pourrais me poser la question, parce que ça bouge un peu. Mais comment est-ce qu'on ne se pose pas la question toutes les 5 minutes que le sol va s'effondrer devant nous? Parce qu'on sait qu'il y a un sol. Alors on peut tomber. Mais on sait que ce sol-là, il est là. On ne va pas se poser toutes les minutes des questions pour savoir si mon pied, je l'avance, est-ce que... Oui, c'est bien dur. Parce que nous savons, c'est évident. Et de la même manière, ce socle-là, en Jésus, est présent dans notre vie. De la même manière, des circonstances aggravantes, des circonstances difficiles peuvent nous entourer, mais ce socle est celui qui nous dirige et nous conduit, est celui qui précède nos pas. Christ se tient au-devant de nous. Il marche au-devant de nous. Et c'est lui qui sait si le sol est meuble ou s'il risque de s'effondrer. Et c'est lui qui nous dirige. Parce qu'il passe au-devant de nous. Parce qu'il conduit nos vies. Tout est possible à celui qui croit. Se reposer en Jésus. Croire, mais pas juste croire dans un terme qu'on a l'habitude d'entendre. Pas juste croire dans le terme qui dit « je crois », mais croire dans le terme « je fais confiance ». Et pas juste faire confiance dans le terme qui dit « oui, je sais que je peux lui faire confiance », mais faire confiance dans le sens où je peux m'appuyer, me reposer totalement sur Jésus. Je peux totalement lui faire confiance. Je sais qu'il ne me trahira pas. Je sais qu'il ne me décevra pas. Je sais qu'il a ma vie entre ses mains. Je le sais. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais. Je le sais parce qu'il a mis son assurance dans mon cœur. Cette assurance dont les disciples parlaient, c'est pas juste être fortifié, c'est l'assurance de savoir qu'ils étaient dans les plans de Dieu et peu importe ce qui pouvait leur arriver. Peu importe ce qui pouvait se déchaîner contre eux. Ils n'allaient pas accuser Dieu de les trahir parce que d'un coup, il leur arrive ils se cassent le pied ou autre chose. Ils n'allaient pas accuser Dieu de ça. Leur foi allait au-delà des circonstances qui les entouraient. Elle allait au-delà de ça. Et Christ veut nous conduire pour que notre foi aille au-delà des catastrophes qui peuvent nous entourer, dans lesquelles peut-être, ou peut-être même des catastrophes qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un, et se dire, est-ce qu'il n'aurait pas fait quelque chose de mal? Est-ce que délivrer des regards pour faire face à notre Dieu, pour faire face à celui qui est le consommateur de notre foi, à celui qui nous justifie, celui devant lequel on se retrouvera, celui à qui nous devons toute explication et toute raison, celui qui vit éternellement, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est à celui-là même que nous adressons. Ce n'est pas aux petites circonstances dans lesquelles le diable cherche à nous déstabiliser. Parce que lui aussi cherche à se mettre à l'œuvre des fois. Mais Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe les événements, je veux te faire confiance. Je veux marcher avec toi. Christ est celui qui est le consommateur de notre foi. Cette foi qui se repose et qui s'appuie sur Jésus seul. Sur Jésus seul. Pas d'autre chose. De sorte que le jour où nous nous trouverons devant ce gouffre, nous ayons l'assurance que le prochain pas, c'est avec Christ que nous le ferons. Lorsque nous nous retrouverons devant, et ça peut arriver à n'importe quel moment, comme j'ai pu m'en rendre compte, comme j'ai pu en être franchement choqué, parce que c'est pas quotidiennement qu'on voit des choses comme ça, qu'on vit des choses comme ça, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Et être un témoin pour les autres, être un témoin d'espoir, être un témoin de délivrance, être un témoin de liberté, que cette vie n'est pas la fin, que l'espoir est bien présent en Jésus, et que cet espoir, chacun et chacune peuvent le saisir, chacun et chacune peuvent approcher de Jésus, et peuvent trouver cet espoir et cette lumière qui va bien au-delà de la petitesse de nos vies, qui va bien au-delà de ce gouffre que beaucoup de gens voient, et dans lequel ils ont besoin de voir au-delà, vers l'éternité. Et ça ne se fait que par Christ. Ça ne se fait que par Christ qui a vaincu la mort. Personne d'autre ne pouvait faire cela. Déjà lorsque Lazare était mourant, lorsque Lazare est mort, Christ l'a sorti de cette mort. Christ l'a sorti de la délivrer de cette mort. Il avait déjà ce pouvoir à ce moment-là. Mais lorsque la mort a cherché à l'engloutir lui, elle n'a pas pu le contenir. Elle n'a pas pu le contenir. Et si nous sommes toutes et tous en Christ, la mort ne pourra pas nous contenir. Parce que Christ vit en nous. Parce que Christ vit en nous. Et mon espoir est fondé sur Jésus seul. Mon espoir est fondé sur Jésus seul. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remets, Seigneur, les paroles, Seigneur, qui émanent de ta parole. Cette Bible, Seigneur, que tu nous as donnée, ces paroles qui sont là, Seigneur, pour nous fortifier, pour nous encourager, mais aussi pour aller au cœur, Seigneur, de ce que tu veux nous dire. Pas simplement une foi, Seigneur, qui est ballottée à de droite, à gauche, par les circonstances, mais une foi qui, même dans la plus grave des circonstances, puisse trouver une force en toi, puisse se laisser porter par toi, se laisser vivre par toi. Seigneur, je te remets, Seigneur, chacun, chacune, Seigneur, ici, parce que, Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais les forces des fois qui nous abandonnent. Et bien sûr, toute chose, Seigneur, n'est pas facile à vivre, n'est pas simple. Mais toute chose, nous dit la Bible, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Seigneur, puisque nous disons, nous t'aimons, nous voulons te dire, nous te faisons confiance pour toute chose. Nous te remettons nos vies, je te remets nos vies, Seigneur, et je te remets aussi le témoignage que tu nous donnes pour ceux qui nous entourent. Je remets, Seigneur, ce témoignage pour que, Seigneur, lorsque tu veux que nous parlions, il n'y ait pas de pierre en travers du chemin. Parce que lorsque tu veux agir, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, qu'il n'y ait pas d'obstacle, Seigneur, en travers du chemin, mais que tu puisses, Seigneur, être efficace dans notre foi, Efficace, Seigneur, dans nos vies. Efficace, Seigneur, dans ce cheminement, Seigneur, que nous menons avec toi. Merci pour l'œuvre de ta parole, pour l'œuvre de ton esprit, pour l'œuvre de ta personne, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Qu'il soit élevé, qu'il soit, Seigneur, élevé au-dessus de tout, parce qu'il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Seigneur, tout est possible. Tout est possible, Seigneur, à toi. Tout est possible. Seigneur, et nous te bénissons pour le regard que tu nous donnes, Seigneur, à l'égard de cette gloire que tu manifestes dans nos vies et bien au-delà. De cette gloire, Seigneur, qui t'habite, cette gloire qui vit en toi et qui, parce que tu vis en nous, vit en nous aussi. Nous te bénissons, Seigneur, de nous rendre participants de ton royaume, de nous rendre, Seigneur, fervents, Seigneur, dans ta volonté. Et nous te remercions de tout cela dans le nom de Jésus. Amen.